Chers auditrices, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Comment éviter de se faire pâter dans les réseaux sociaux? Nous en parlons avec le professeur Kodjo Ndoukouma, il est spécialiste en droit numérique. Professeur Kodjo, bonjour. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous hein, pour intervenir en direct au numéro 081 890 63 94. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez-nous vos questions au numéro 081 711 5001. C'est aussi possible de nous envoyer vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous attendons également vos commentaires dans le courriel dénommé service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente ces numéros. Jean-Marc Matoua qui coordonne et supervise cette émission. Et Marcel Ngombo s'occupe de la coordination de ces numéros. Jean-Noël Mokondo est à la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces numéros d'Okapi Service.
Le 42 502, c'est Radio Okapi dans votre téléphone. Par un simple appel au 42 502. Une fois sur le 42 502, vous avez le choix entre différents programmes. En tapant le 311 pour le journal, la revue de presse au 312, le flash info au 313, le 321 pour le sport, la chronique santé au 322 et Banane Doulée au 323. Le 42 502, c'est Radio Okapi dans votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42 502, uniquement pour les abonnés Vodacom.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Comment éviter de se faire pirater dans les réseaux sociaux? Nous en parlons dans cette première tranche d'Okapi Service. Usurpation d'identité et usage des faux profils sur Internet, ce sont là les quelques formes de piratage hein, des comptes Facebook, Twitter et autres que des personnes malveillantes utilisent pour escroquer des gens sur Internet. À Kinshasa et dans d'autres villes du pays, aucune personne n'est épargnée hein, par les piratages sur les réseaux sociaux. Même l'administration publique est exposée à ces genres de pratiques illicites. Comment éviter de se faire pirater dans les réseaux sociaux? Nous en parlons dans cette première partie d'Okapi Service avec le professeur Kodjo Ndoukouma. Il est spécialiste en droit numérique. Il intervient depuis la ville de Paris en France. Professeur Kodjo, bonjour.
Et je suis heureux de participer à votre magnifique émission.
Parfait. Là, on vous reçoit 5 sur 5 également. Comment éviter le piratage, de se faire pirater au fait dans les réseaux sociaux, usurpation d'identité, usage des faux profils sur Internet, ce sont là les quelques formes hein, de piratage des comptes Facebook, Twitter, que des personnes malveillantes utilisent pour escroquer des gens sur Internet à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Aucune personne n'est épargnée par les piratages sur les réseaux sociaux. Comment éviter de se faire pirater dans les réseaux sociaux? Professeur, première question, est-ce que vous partagez ces constats que nous avons faits sur les piratages dans les réseaux sociaux?
Oui, vous savez, il y a eu des statistiques qui ne se sont plus pérennisées concernant l'usurpation d'identité numérique sur les plaintes enregistrées par la police nationale congolaise. Vous allez vous remarquer que dans ces statistiques, à peu près la majorité des cas étaient ceux d'usurpation d'identité et ceux de tromperie aux fausses offres d'emploi. Et donc, chaque jour, on s'en rend compte, les autorités de ce pays sur Twitter sont supposées avoir lancé des communiqués et ensuite, ils font des démentis pour dire que ce n'est pas eux. Souvenez-vous du communiqué de démenti fait par le ministre de l'Économie nationale concernant son identité qui avait été usurpée. Et aujourd'hui, nous avons quand même un dispositif légal avec l'ordonnance loi numéro 23010 du 23 mars 2023 portant code du numérique, non, du 13 mars, pardon, 2023 portant code du numérique, qui donne un certain nombre de définitions que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette émission, de développer, ainsi que des infractions qui, aujourd'hui, en droit congolais, sont sanctionnées dans le cadre de la cybercriminalité.
Mais, oui, mais prof, ces pratiques sont faites pour quelle finalité, généralement ?
Bon, vous savez d'abord que le code du numérique fixe le principe à l'article 331 que les infractions de droit commun commises au moyen d'un réseau de communication électronique ou d'un système informatique sont réprimées conformément au code pénal et aux dispositions particulières pénales en vigueur. En fait, la cybercriminalité, c'est trois composantes essentielles. C'est d'abord les anciennes infractions, injures publiques, escroqueries, vols, qui pourraient se commettre avec les facilités des technologies de l'information et de la communication. La deuxième catégorie des cybercrimes, c'est vraiment tout ce qui est piratage, hein, on en parlera aussi. Mmh. C'est vraiment l'accès illégal, c'est un téléphone qui a été hacké, ça veut dire qui a été où on a fait un codage informatique pour voler un certain nombre de données. C'est vraiment cette deuxième catégorie des infractions qui demandent une compétence informatique ou technique et qu'on appelle les infractions cybercriminelles stricto sensu. Et puis, il y a la dernière catégorie des infractions. Je pense qu'on en parlera également. Hein, c'est plutôt les infractions de diffusion. Lorsque des personnes dans la sphère privée s'envoient leurs images, il n'y a pas d'infraction, ou que des conversations restent privées, il n'y a pas d'infraction. Mais dès le moment où on en assure la diffusion par revanche pornographique, comme on l'a vécu avec la commune de la Tchopo, où une bourgoumestre, selon la presse, a été arrêtée pour avoir diffusé les images de sa rivale ou prétendue rivale. Là, on est dans la troisième catégorie des infractions cybercriminelles qu'on appelle les infractions de diffusion. Mais pour le cas de l'émission d'aujourd'hui, usurpation d'identité, usage de faux profils, escroquerie en ligne, piratage, nous sommes dans la première et la deuxième catégorie des infractions pour lequel le code du numérique a déjà fait avancer le droit congolais de la répression de ces infractions.
Oui, mais malgré la mise en place de ces codes numériques, nous constatons que c'est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur, hein, et ça va s'étaler dans les temps.
Bon, en réalité, l'identité d'une personne est régie par les règles de l'état civil. Dans le sens où on donne un nom à une personne, son statut change avec le mariage et finalement il y a le décès. Ces informations nominatives sont certifiées par une administration publique. Mais maintenant, quand on est dans le domaine de l'identité numérique, ce sont les plateformes qui nous permettent de nous identifier selon notre bon vouloir. Le droit au pseudonymat, le droit à l'anonymat est un droit qui permet de protéger sa vie privée. Ça veut dire qu'on peut choisir vis-à-vis de... Je peux continuer, s'il vous plaît ?
Oui, allez-y, professeur.
Ah, mais je vous en prie. Donc, on peut choisir un pseudonyme lorsque on veut s'identifier dans un réseau ouvert au public. On peut également choisir l'anonymat lorsque on veut protéger sa vie privée. Par exemple, dans un groupe WhatsApp, on n'est pas obligé de mettre son nom lorsque on est en train de faire des transactions dans un groupe. Sur Twitter, on peut également se faire appeler Queen, alors que son vrai nom dans l'état civil, c'est Kojo, par exemple. Mmh. Mais simplement, au-delà de ce droit de protection de la vie privée par le pseudonymat et l'anonymat, les différentes plateformes numériques n'exigent pas un certificat d'identité ou un acte de naissance ou un acte d'état civil pour valoriser l'identification ou certifier l'identification électronique. Alors, le droit congolais, c'est l'article 2.42, l'article 4.42 du Code du numérique qui vise le processus d'identification électronique. Alors, il faudrait que les plateformes disposent d'un processus qui consiste à utiliser les données constitutives de l'identité d'une personne physique ou morale pour que par des procédés électroniques, il y ait correspondance dans la représentation de manière équivoque, univoque, entre la personne physique ou morale et son identité physique. Donc, comme cela n'est pas fait, et je corrige, hein, c'est l'article 2.42 du Code du numérique, comme cela n'est pas fait sur Twitter, donc il n'y a pas de correspondance entre l'identité administrative et l'identité numérique, les gens en profitent pour se faire passer pour d'autres personnes. Mmh. Alors, c'est là que l'article 349 du Code du numérique parle de tromperie en disant que est puni d'une peine de servitude pénale de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 25 millions de francs congolais ou d'une de ces peines seulement, celui qui utilise les éléments d'identification d'une personne physique ou morale dans le but de tromper les destinataires d'un message électronique ou les usagers d'un site internet, et ce, en vue de les amener à communiquer des données à caractère personnel ou des informations confidentielles. Là, le Code du numérique n'est pas allé jusque à dire qu'on usurpe l'identité pour escroquer, mais en tout cas, l'infraction existe déjà. Il y a aussi une autre infraction qui consiste, selon le Code du numérique, toujours article 351, à pouvoir capter l'identité de quelqu'un. Je peux donner l'exemple des fois où une personne utilise l'identifiant d'une autre pour pouvoir se faire passer pour la personne. C'est le cas qu'on a vécu, mais ça ne peut pas aller en jurisprudence, où une femme jalouse a commencé à utiliser le téléphone de son mari pour pouvoir communiquer avec des personnes qu'elle suspectait. Et quand elle a pu communiquer avec l'identité téléphonique de son mari, elle a demandé à ses rivales de pouvoir lui écrire sur un autre numéro de téléphone que parce que ce premier numéro-là était trop surveillé par la femme qui se faisait passer pour l'homme. Et il y a eu par la suite des dégâts parce que la dame, avec cet hameçonnage, ça existe dans le code numérique, donc l'article 351, elle a hameçonné ses rivales. Celles-ci ont commencé à lui envoyer des photos intimes en pensant le faire à leur concubin.
Conjoint,
ou copain,
concubin,
et
oui.
Et elle les a ensuite diffusées. Voilà, plutôt vite entrée en matière. Les éléments que je peux partager.
Mais est-ce que c'est possible de remonter l'information jusqu'à trouver l'auteur, à démanteler l'auteur de ces genres de pratiques ? C'est possible, non ?
Voilà, c'est la bonne question. Bien entendu, les incriminations existent. Bien entendu, les infractions ont été définies dans la loi, dans le Code du numérique, ordonnance-loi. Mais la question de la cybercriminalité et la problématique consiste en la problématique de l'administration de la preuve. Là encore, le Code du numérique a précisé que pour qu'on établisse la preuve électronique contre une personne, il faut qu'il y ait deux conditions. Il faut que, un, on puisse s'assurer que les données, les écrits n'ont pas été altérés et qu'on peut attacher à une personne physique bien précise, un fait électronique. J'explique de manière simple. Ça signifie qu'aujourd'hui, sur Twitter, les gens utilisent des pseudonymes. Les gens, quand ils doivent remplir les formulaires de création de compte ou de profil, ils utilisent des fausses adresses. Ils utilisent également de fausses dates de naissance. Ça veut dire que même si aujourd'hui, vous identifiez le compte, le numéro de téléphone, ou le profil qui est en train de vous usurper ou de vous escroquer, vous aurez du mal à pouvoir attraire la personne derrière en justice parce que il y a une difficulté de rattachement de ce compte-là à un nom, à une adresse précise. Alors, ce qui se passe dans d'autres pays, c'est qu'on utilise l'inforensique. L'inforensique signifie tous les moyens d'identification électronique possibles en reconstituant les traces électroniques vis-à-vis d'une personne. Sans être long, je vous donnerai l'exemple d'un jeune homme. Ce n'est pas sorti dans la presse, peut-être c'est la première fois qu'on en parle, d'un jeune homme qui s'était procuré le numéro de téléphone d'une haute autorité, président de la République prenant. Et celui-ci appelait ce président chaque matin, rien que pour lui dire bonjour, rien que pour le saluer. Mais comprenez qu'entre le fait de recevoir les rapports du Premier ministre, les rapports de sécurité du pays, et vous avez un embrouilleur, entre guillemets, qui vous appelle chaque matin. On a essayé, les gens ont essayé de remonter l'appel, le téléphone, sans trouver de nom derrière. Mais ce sont les éléments de géolocalisation qui ont permis de comprendre que chaque jour, cette personne appelée à une adresse précise par rapport à une antenne de proximité, et la zone finalement a pu être quadrillée pour que par géolocalisation, on puisse trouver l'adresse de la personne et de dire « Ah, voilà, il y a un jeune homme ici qui appelle importunément une si haute autorité. » Donc, les moyens d'investigation doivent consister en un dispositif d'inforensique dont doivent bénéficier les services de sécurité, doivent bénéficier les services de sécurité ou d'investigation pour pouvoir y arriver. Il y a eu un ancien ministre de la Justice qui a dû quitter le gouvernement, qui avait lancé un communiqué en ce sens-là, disant que l'État, par un PPP, partenariat public-privé, allait se doter de ce genre de laboratoire, de recueil de traces technologiques, de criminalistique informatique pour pouvoir confondre les personnes physiques par rapport à leur activité numérique qu'ils pensent, que ces personnes pensent anonymes, mais qui sont contraires à la bonne loi, quoi, disons comme ça.
Comment éviter de se faire pirater dans les réseaux sociaux? Nous en parlons dans cette première tranche d'Okapi Service avec le professeur Kodjo Ndoukouma. Il est spécialiste en droit numérique. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94. Appelez-nous. Nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez-nous vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous attendons également vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiokapi.net.
Le 42 502, c'est Radio Okapi dans votre téléphone. Par un simple appel au 42 502. Une fois sur le 42 502, vous avez le choix entre différents programmes. En tapant le 311 pour le journal, la revue de presse au 312, le flash info au 313, le 321 pour le sport, la chronique santé au 322 et Banane Doulée au 323. Le 42 502, c'est Radio Capi dans votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42 502, uniquement pour les abonnés Vodacom.
Nous commençons par la lecture du commentaire que nous a laissé sur la page Facebook du magazine Okapi Service, éminent Mwanda, qui nous a écrit depuis la ville de Kisangani. Il nous dit ceci: le piratage comme mode de vie aux yeux est à l'insu des services techniques du gouvernement d'analyse en complicité ou l'incapacité des services de téléphonie mobile et de télécommunications qui laissent à désirer. Le piratage informatique dans la plupart de nos réseaux sociaux, je cite par exemple Facebook, Instagram, YouTube et autres, méritent particulièrement attention, une attention particulière en cette période électorale où tous les coups sont permis. Comment commentez-vous ces messages que nous a laissé cet internaute, professeur?
Oui, mais elle a tout à fait raison. Je salue les Boyomé parce que on s'est rendu compte que les armées numériques des partis politiques prennent souvent d'assaut les plateformes, soit pour discréditer un candidat ou soit pour faire la promotion de l'image de leur propre candidat. Et donc, on assiste à une flopée, à une montée du piratage, de la violence, des insultes, ainsi de suite. Mais il y a des mécanismes alternatifs lorsque l'État ne dispose pas des moyens de mener des investigations criminelles en ligne ou de faire de la perquisition informatique. C'est ce qu'on appelle la téléperquisition et c'est connu également de notre droit congolais. D'abord, il y a la modération des différentes plateformes. Au Sénégal, une loi a été votée que si sur WhatsApp, vous avez déjà plus de 250 ou de 500 membres, il faut que l'administrateur du groupe se déclare aux autorités parce que, en fait, ces plateformes ont donné aux différents administrateurs de groupe la possibilité soit de suspendre quelqu'un pour activité malveillante, de l'éjecter du groupe ou même d'effacer des contenus. Donc, à ce niveau-là, c'est le cas. Il a également été dit avec les opérateurs de télécommunication, dans le code du numérique et peut-être, oui, dans le code du numérique, que ces opérateurs de télécommunication, ces fournisseurs d'accès à Internet ont une responsabilité aujourd'hui. Cette responsabilité consiste pour eux non pas à une surveillance générale de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais de pouvoir participer de manière prompte justement à la suppression ou à l'interdiction d'accès à des contenus qui sont malveillants. Ça, il faut lire l'article 283 du code du numérique et l'article 282 du code du numérique également. Donc, ça, ce sont aussi des choses alternatives. Il y a aussi les contacts qu'on peut avoir avec les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Vous savez qu'il y a une sénatrice qui a été menacée injustement par un compte Twitter menaçant de pouvoir dévoiler des données personnelles en ce qui la concerne. Menace, heureusement, jamais mise en exécution ou peut-être du simple bluff. Et les autorités du pays ont été quand même assez désarmées sur les moyens de pouvoir contrer une telle publication sur Twitter ou sur Facebook parce que il fallait quand même protéger la dignité du sénateur. Donc, il faut avoir des accords ou des moyens de coopération avec ces plateformes comme en Europe où la directive 2031-CE les a obligés de pouvoir supprimer à la demande des autorités un contenu qui affecte la vie privée ou alors de pouvoir en interdire l'accès. Les États-Unis sont puissants, essayez de chercher les affres ou les débordements de Abu Ghraib sur Internet, vous ne trouverez pas ça. Abu Ghraib, c'est des photos qui sont sorties d'une femme américaine, Marines, tenant en laisse à une corde des prisonniers afghans ou je sais pas tout nus et empilés. Ça, ces images n'existent plus sur Internet parce que il y a de manière alternative la possibilité de supprimer ou même de fermer ces comptes. Oui, et je peux signaler qu'à un moment, sans révéler tout ce qui se passe, qu'à un moment donné, sous l'ancien régime, il y avait un ministre qui était allé, bon, je le cite, le ministre Mende, il était allé plus loin, c'était même passé à la télé, pour prendre des contacts avec les acteurs de Silicon Valley afin de protéger le pays contre tout ce qui était compte ou profil Internet qui menaçait la quiétude des gens, la vie privée et qui usurpait les identités des autres.
Oui, voilà. Surtout en ce qui concerne l'atteinte à l'intimité, on l'a vécu récemment ici en RDC lors de l'acquittement d'une autorité de la prison centrale de Makala. Au lendemain, on a divulgué des vidéos intimes et c'était pas du tout intéressant. Donc, comme on a mis en place les codes du numérique, je pense que ça va avancer dans le cadre de la protection de la vie privée des gens. Nous retournons au standard hein, pour donner la parole aux auditeurs. Glody Bonganga, il est à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, le journaliste. Bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs.
Comment éviter de se faire pirater dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets?
Merci beaucoup. Je pense qu'avant de poser mes questions, j'aimerais parfois faire des petits témoignages. Moi-même, je suis victime à ça. C'est la semaine antérieure, je vis un Dieu que je connais, que je respecte bien. Il est parmi les autorités de ces pays qui on collabore bien. Par son compte, Peter me dit, voilà, quand tu investis 200 dollars, tu vas gagner 1000 dollars. Et moi, je me suis référé de dire, ah, même si à la banque, quand vous épargnez de l'argent, l'intérêt ne peut pas s'augmenter comme ça. Mais comment se fait-il? Vous investissez 200 dollars, moins d'un mois, vous gagnez 1000 dollars. J'ai dit ça va être un peu de l'escroquerie. Quand je me suis renseigné, c'est par là que j'ai compris que ces gens-là, ils ont piraté le compte de ces gens-là qui voulaient me rationner de l'argent. Donc c'est un phénomène, parfois on assiste à des désordres bien organisés sur ce secteur-là. Je ne sais pas, j'aimerais parfois être bref et précis de poser la question à monsieur le professeur.
Allez-y.
Monsieur le professeur, comment détecter que ce compte est piraté? Parce qu'on n'arrive plus à comprendre. Vous allez voir, par exemple, monsieur X et Y, qui est bien rémunéré, parfois il crée les comptes, parfois il commence à écrire les gens. Mais actuellement, on n'arrive plus à distinguer si c'est lui ou bien c'est pas lui. Comment faire pour détecter que ce compte n'est pas utilisé par le propriétaire? Si vous pouvez nous expliquer quelques indices, parfois, il y a ceux qui nous écoutent à partir de ce moment, peuvent prendre connaissance. Parce que vraiment, on est fatigué de voir des photos d'intimité des gens, des vidéos, tout ça. Parfois, les gens n'arrivent plus à comprendre, parfois, les enfants à côté. Donc, c'est vraiment terrible. Récemment, à Bandundouville, il y a eu un compte Facebook qui a été créé, qui postait des filles à moitié nues, tout ça. Et jusqu'à ce qu'on a pu repérer la personne et la personne a été arrêtée. Bon, je ne sais pas. Quels sont les mécanismes vraiment qu'on peut comprendre que non, voilà, ce compte est piraté, tout ça, ou soit la personne à qui je parle avec lui sur Internet, ou bien c'est lui, mais c'est pas lui, parce que on n'arrive plus à distinguer si l'invité peut nous aider vraiment récemment. Et si parfois vous avez des preuves palpables, vous soupçonnez que voilà, c'est tel monsieur qui a piraté mon compte. Et comment faire? Quelles sont les procédures pour aller qu'on peut mettre la main sur lui? Si vous pouvez m'orienter moi personnellement. J'ai dit que je vous remercie.
Merci beaucoup, Claudine. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Roger Marcel, vous également, vous êtes à Kinshasa. À vous la parole. Bonjour.
Bonjour, M. Cassier. Bonjour à notre invité. M. Cassier, moi, je voudrais vraiment demander à notre invité, parce que dernièrement, j'ai eu à connaître un problème avec mon compte Facebook. Un monsieur qui a essayé de pirater mon compte. Mais j'ai essayé de récupérer mon compte. Mais j'ai été bloqué à un niveau où je pouvais avoir, l'accès sur mon téléphone. Mais on m'a dit que je puisse un peu changer le mot de passe. En cherchant de changer le mot de passe, j'ai été vraiment donc on n'a pas donné un peu une facilité là d'avoir un peu le nouveau mot de passe. Et je demande un peu à notre invité, je pouvais faire quoi peut-être pour récupérer mon compte? Parce que j'essaierai de connecter de mon téléphone. Il n'y aura pas moyen encore de se connecter vers un autre téléphone. C'est ce que je pouvais demander à notre invité si tu me donnais une réponse.
Merci beaucoup, M. Roger Marcel. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Nous restons à Kinshasa pour donner la parole cette fois-ci à Malonga, à qui nous disons bonjour.
Oui, bonjour Tatier, bonjour professeur.
À vous la parole, allez-y, on vous écoute.
Ok, merci beaucoup. En tout cas, cette situation nous fait vraiment fatiguer. Moi, je donne vraiment la responsabilité aux décideurs. Le code numérique est déjà là, qui permet vraiment au pouvoir public d'arrêter celui qui pirate le compte de quelqu'un et même de lui-même. Moi, ici, je veux demander au professeur. Bon, concernant par exemple moi-même ici, je n'ai pas voulu encore mettre le profil de mon image. J'ai pris l'image de sanctuaire où Aaron officier en tant qu'un grand sacrificateur. Mais vous verrez aussi quelqu'un qui se permet aussi de prendre cette image et faire de n'importe quoi. C'est par là où je viendrai à ma question de mon président de dire que pour dénicher en tout cas ces personnes qui veulent embrayer la situation même des forums, même personnel, comment est-ce qu'on peut procéder à cela? Puisque nous sommes dans des forums, nous avons aussi des comptes, mais nous ne sommes pas vraiment capables de découvrir certaines choses qui nous dépassent. Alors, le professeur, il est là, il peut donner vraiment des voies et moyens pour nous aider. En fait, de donner aussi la voix à ceux qui peuvent arrêter ces gens-là. Puisque le monde est vraiment éveillé. ce que nous subissons dans la société, ça entre aussi dans des forums, dans le monde numérique. Bon, on n'arrive plus encore à comprendre. Nous sommes où au juste? Nous sommes où au juste? On peut aussi craindre Dieu. Hein? Non, mais nous le mettons à part. Mais c'est Dieu qui est le suprême de tout. Mais le monde n'arrive plus encore à craindre Dieu.
Merci c'est beaucoup.
Je demande plus au professeur de mettre aussi Dieu avant tout. peut-être avec cette crainte, hein, on peut arriver à normaliser les choses.
Merci beaucoup, monsieur Malonga. Je rappelle que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Professeur Kodjo, comment répondez-vous à la préoccupation de Glody Bonganga qui a voulu savoir, au fait, comment détecter à première vue que son compte a été piraté?
Bon, c'est plusieurs questions, monsieur Glody. Comment détecter qu'un compte a été piraté? Si j'ai bien compris, toutes les plateformes aujourd'hui proposent un service payant, notamment avec Twitter, je pense que c'est $8, pour la certification des comptes. Vous allez voir que en dessous d'un compte Twitter, il y a un petit label bleu. Ça veut dire que vous aurez payé les services pour que votre compte soit certifié et qu'il n'y ait pas une autre personne qui puisse l'usurper. C'est la montre, finalement, que s'ils font payer ce service, c'est que tous les comptes qu'on ouvre gratuitement sont plus exposés au piratage que les comptes qui obtiennent une certification plus poussée, que ce soit de Facebook ou que ce soit de Twitter. Ce qui fait que vous avez certains acteurs de l'industrie musicale qui, même sur YouTube, ils font certifier leur compte en disant que tous les autres comptes qui émettent des images de vidéos ne sont pas des comptes officiels. Kofi Olomide l'a fait. Et puis, on encourage toutes les institutions et ou toutes les personnes quand même qui sont
des notoriétés
importantes
oui.
à pouvoir faire certifier leur compte. Maintenant, il y a également la façon de faire une recherche inversée. Il y a moyen également de recouper les informations. J'ai une amie qui me dit qu'elle a reçu sur Facebook un compte, une offre alléchante d'achat de ciment. De ciment venant, je ne sais pas moi, d'Angola. Et elle a même eu à donner $900 sur la foi de ce qu'elle avait vu dessus. Mais je pense qu'il y a une éducation au numérique que nous devons avoir. Mmh. On ne peut ni transmettre ses données personnelles, ni transmettre de valeurs monétaires, ni transmettre quelque chose d'important sans qu'on ait cassé la chaîne numérique. Ça veut dire qu'il faut appeler au téléphone, avoir une personne physique derrière ce numéro ou derrière ce compte. Mmh. Ensuite, s'assurer que ces personnes ont bien une adresse physique dans laquelle vous pouvez vous assurer que vous avez déjà un référent ou un répondant de siège social, et ce n'est qu'après que vous pouvez, contre des décharges, pouvoir partager les valeurs ou des choses comme ça. C'est aussi une éducation que nous devons avoir. Malheureusement, le nombre d'usurpations et d'escroqueries nous enseigne souvent en post facto, postérieurement, alors qu'on a déjà été trompé. La question de Monsieur Roger Marcel, oui, c'est une question de récupération de mots de passe. Faites en sorte, s'il vous plaît, dès que vous ouvrez votre compte, ou que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, de pouvoir l'ouvrir avec un mot de passe compliqué. Ça veut dire vous mettez des majuscules, vous mettez des caractères spéciaux et vous mettez plusieurs types de lettres. Et assurez-vous que, à part l'identification directement sur la plateforme, vous avez mis un numéro de téléphone ou une adresse email de récupération de mots de passe. Ça veut dire que nous le faisons surtout pour nos comptes bancaires. Hein. Mmh. Pour les comptes bancaires en ligne, on fait en sorte que, même si on a oublié le mot de passe, il y a des questions secrètes que nous-mêmes on connaît. Il y a un autre numéro de téléphone auquel on envoie le code de signalisation pour pouvoir réinitialiser le mot de passe. Et donc, Là, c'est une prévention personnelle à pouvoir faire. Et puis, un autre conseil à lui donner, il faut pas ouvrir ses comptes privés sur des réseaux publics. J'ai vu plusieurs fois des gens ouvrir leur page Facebook dans des cybercafés, et quand il ressort, tout ce qu'il fait, il ferme la page. Mais en fermant la page, il ne s'est pas déconnecté de sa page Facebook. Mmh. Et donc, une autre personne peut venir après vous, oui, et voir votre compte ouvert et pouvoir changer le mot de passe. Oui. Donc, c'est aussi nos habitudes. À moins vraiment qu'il y ait des hackers, qu'il y ait des compétences techniques qui leur permettent de craquer notre code PIN, notre mot de passe, mais c'est souvent nos imprudences personnelles qui nous amène à nous exposer.
Oui, professeur, vous allez revenir, oui, pour Malonga. Il y a d'autres auditeurs qui attendent, donc nous leur donnons priorité parce qu'on a perdu quelques minutes à l'entame de ces rendez-vous. Jean-Marie, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Allez, on vous donne la parole. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets?
Oui, je salue d'abord monsieur le professeur Kodjo. Je le félicite, il nous a beaucoup édifié. Je suis content, comme c'est un professeur, il donne le cours aussi à une de mes filles, c'est Papa Kabusungu. Je le félicite beaucoup. Je ne vais pas citer pas son autorisation quand il donne le cours au étudiant, ma fille Kabusungu. Mais c'est Papa Kabusungu, il comprend beaucoup de reconnaissance. Je suis vraiment content. Je suis comme nos filles et nos enfants en droit sont beaucoup édifiés. Je suis beaucoup édifié avec le code numérique qui nous a dit. Alors, je suis content que vraiment nous avons des professeurs.
Oui, merci beaucoup, M. Jean-Marie. Ce sont plutôt des compliments à l'endroit du professeur Kodjo Ndoukouma. Merci beaucoup. Monsieur Pierrot, vous êtes à Lubumbashi. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets?
Oui, bonjour à l'invité, bonjour aux auditeurs de la radio Capi et à vous-même. C'est Pierrot Mpagna, je suis à Lubumbashi. Moi, je n'ai pas assez de choses à parler, mais je voulais parler à notre invité. Et est-ce que ne trouvez-vous pas que c'est déjà tard? Parce que quand nous avons commencé, on nous a fait découvrir les réseaux sociaux, il n'y a pas eu une éducation appropriée pour l'utilisation de ces réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on voit ce qui se passe dans notre pays est différent de ce qui se passe à l'étranger. Je donne un exemple. Regardez la majorité de nos autorités. Ils ont des comptes Twitter propres. Mais lorsqu'il faut parler, ils parlent même des problèmes qui concernent toute la société ou de leur ministère dans leur compte privé, que de créer des comptes de l'entreprise ou de la société ou du ministère que eux dirigent. C'est déjà quelque chose qui ne va pas bien. Et c'est ce qui a aujourd'hui créé des journalistes dans toute la ville de Kinshasa. Vous trouvez quelqu'un qui n'a même pas de code, qui ne connaît pas comment fonctionne un journaliste, il est là avec son caméra, il sait que je vais balancer sur YouTube. Moi, je parle du piratage. Comment on pirate aussi un numéro de téléphone et on crée un compte WhatsApp sur ce numéro-là? Ça me surpasse et je connais quelques amis qui ont été victimes de cette pratique-là. Et récemment ici, il y a quelque chose qui s'est fait. J'ai une belle-sœur qui est à Kabinda, son nom c'est Symphora Mushingo, mais on prend son nom, on n'a pas piraté, on a créé un autre compte, mais ils ont d'abord mal écrit le nom, et ils commencent à envoyer ses amis des messages réclamant de l'argent, comme c'est une fille un peu sérieuse. Bah, vous pouvez envoyer cet argent et là, il y a beaucoup de gens qui commencent à réclamer cet argent après. Que faire pour que ce genre de pratique-là termine? Parce qu'il nous a cité aussi l'époque de la mère Mende. Or, dans cette époque-là, c'est l'époque que nous avons vu dans cet ancien pouvoir, les mêmes autorités qui trouvent normal on donne un dossier de sexe. Et tout le monde commence à parler au lieu d'éduquer. Et nous pouvons assumer, mais comment faire? Comment faire pour avoir un compte Facebook certifié Et comment sécuriser ce compte Facebook-là, c'est ce que je voulais parler.
Merci beaucoup, Pierron. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Cette fois-ci, allons à Ituri pour donner la parole à M. Justin. Il est à Bounia. M. Kalabia, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour aussi à notre invité.
À vous la parole, allez-y, on vous écoute.
Oui, monsieur Marcel, en tout cas, j'ai une question très intéressante. Mais avant qu'on en arrive, monsieur Marcel, j'ai une suggestion à passer. Oui, je disais à mon ami la ville, la gestion de la communication des réseaux sociaux devrait être prise en charge par l'État congolais. Pour éviter la dissipation des fausses identités, en fait, c'est bien gérer la dignité de la personne, monsieur Marcel. Oui, ma question est de savoir. Pourquoi les anarchistes des réseaux sociaux font en tout cas les actes criminels sous l'œil impuissant des autorités de la télécommunication? Je dis et je vous remercie et bonne journée, M. Martin.
Merci beaucoup, M. Justin. C'est Tati qui est à l'antenne ce matin. Merci beaucoup. L'invité aura le temps de répondre à tes préoccupations. Professeur, comment répondez-vous à M. Pierrot de Lubumbashi concernant les modes de sécurisation des comptes Facebook?
Bon, déjà, je salue le travail qu'a voulu faire le ministère du numérique en demandant au gouvernement de disposer d'un centre de données sécurisé pour l'État, là où finalement tous les membres du gouvernement pourraient, conserver leurs données pour assurer la souveraineté numérique. La deuxième chose que le ministère avait voulu faire, c'était de donner des adresses corporate, comme l'a suggéré Monsieur Pierrot, à tous les membres du gouvernement. Il est quand même indécent d'avoir comme ça des adresses Gmail, je ne sais pas moi, pour un ministre de la Santé, une adresse Yahoo, alors que en France où on est, on voit des gov, on peut dire Bruno Le Maire @ diplomatie.gov.fr.
Oui.
Voilà. Donc, c'est déjà ça qu'il faut faire parce que, et même les comptes des entreprises, on vous dira que tous les agents de Vodacom, ils ont des adresses vodacom.cd, tous les agents du PNUD, ils ont des adresses undp.org. Et donc, lorsque vous recevez, par exemple, un email vous disant qu'il y a une offre d'emploi à l'UNICEF, mais quand vous regardez l'adresse email de celui qui vous envoie le message, c'est unicef@gmail.com.
Ça fait pas sérieux déjà, oui. Oui.
Voilà. Que le nom de domaine principal qui est après le @ traduit une identité plutôt autre que celle d'un compte d'entreprise. Alors maintenant, l'usurpation des numéros de téléphone, c'est très possible. Lorsque vous donnez votre téléphone à la charge et qu'une personne y a accès, cette personne peut faire une nouvelle identification avec son téléphone et voir dans la fenêtre de notification le code qu'envoie WhatsApp, qui fait partie de Meta, pour pouvoir le mettre sur son téléphone. Donc, c'est souvent, c'est souvent des infractions de proximité. Pour qu'on puisse vous usurper votre numéro de téléphone par WhatsApp, il faut qu'une personne ait essayé de mettre votre numéro sur son téléphone et qu'il ait reçu sur votre propre ancien téléphone le code de validation qu'il recopie chez lui. Et dès qu'il le fait, ça devient quand même difficile de pouvoir récupérer son numéro de téléphone. Bon, pour WhatsApp. La question de Sephora dont monsieur a parlé pour dire que le nom de la dame est mal écrit et appelant des personnes à pouvoir lui envoyer de l'argent, c'est ce qu'on appelle du phishing ou de la maçonnage. C'est l'article 351 du Code du numérique. Il pourra pouvoir aller lire là-dedans et la façon de pouvoir porter plainte. Maintenant, pour toutes les personnes qui entrent dans des groupes WhatsApp, la seule façon, il y en a deux, la façon d'entrer dans les groupes WhatsApp, c'est soit si l'administrateur vous y met ou si soit vous y accédez par un lien d'invitation qui est envoyé. Mais sinon, dès qu'il y a des choses qui se passent dans le groupe WhatsApp, Moi, je soutiens qu'on puisse d'abord attraire ou, comment on dit, porter plainte contre l'administrateur du groupe WhatsApp, parce que lui, il est censé connaître toutes les personnes. Maintenant, les images qui circulent, Monsieur Marcel, les personnes dont les images circulent, je peux vous le dire, connaissent les personnes à qui elles avaient envoyé la première image. Mais simplement, ça se fait dans des cadres d'intimité ou dans des cadres de confiance, que ces personnes dont les images circulent ne vont pas porter plainte contre leur ami, leur copain, leur copine. La première image qui est envoyée à une personne qu'on connaît bien.
Oui.
Ensuite, il y a les transmissions qui sont faites. Mmh. Alors, ailleurs, il y a ce qu'on appelle la responsabilité en cascade. Tout le monde qui transmet des images obscènes, oui, participe à la commission de la même infraction. Et donc, il y a eu, à l'époque de Général Kanyama, la dame Karine Mokonzi qui fut détenue parce que les images de mort de Marie Missamou avaient été diffusées.
Oui.
C'est vrai que elle, la dame Karine Mokonzi, elle avait dit, je cite les faits, elle avait dit qu'elle n'était pas la seule à avoir publié cela et qu'il y avait aussi un monsieur activiste de artiste en danger qui l'avait fait. Mais du moment où vous vous trouvez dans la chaîne des personnes qui répliquent l'image en cascade, vous participez à la commission d'une même infraction. Et puis, la loi est là, mais il faut qu'on l'applique. L'article 357 du Code du numérique, mais avant cela, les articles 216 et suivants de la loi de 2009 sur la protection de l'enfant rendaient condamnable déjà le fait de faire circuler les images des enfants de Saint-Georges. Toute personne qui se retrouve dans son téléphone en possession des images de pédopornographie, ça veut dire des images des enfants qui sont qui sont nus, cette personne-là est aussi cybercriminelle. Maintenant, toute la question, c'est quoi? C'est la politique de lutte contre la cybercriminalité en République démocratique du Congo. On vous signale que la République démocratique du Congo a déjà adopté la stratégie nationale de cybersécurité, une stratégie dans laquelle je suis cité également comme expert. Mais seulement, la personne qui avait le mieux avancé cette lutte, c'était l'ancien ministre de la Justice. Il y a une commission qui existe, qui s'occupe de la pédopornographie, et le ministre de la Justice avait voulu que ceci également, cette commission s'équipe également de la cybercriminalité. Pour le moment, je connais le colonel qui a
la police,
colonel Kalem.
Excusez-nous, professeur.
Il ne dispose pas de moyens ni de politique de lutte contre la cybercriminalité.
Oui.
Je vous écoute.
Oui, on est coincé par les temps. Dernière question, à l'ère du numérique, tout le monde se passe pour journalistes. Pensez-vous qu'il faut, l'État doit vraiment augmenter les restrictions dans le secteur du numérique en RDC, parce que tout le monde se passe journaliste, des images qui ne sont pas traitées sont diffusées, et parfois avec des contenus qui choquent les morales. Pensez-vous que c'est important vraiment de renforcer les mesures de sécurité dans le secteur du numérique en RDC?
Oui, je voudrais saluer le président du CESAC, Bossembe, qui m'a accordé une audience à ce sujet, pour dire effectivement que la loi de 1996 sur la liberté de la presse a été un peu dépassée parce qu'elle n'a prévu que la presse écrite et la presse audiovisuelle. Mmh. Maintenant, il y a la presse en ligne. Et là, on doit distinguer deux catégories d'acteurs. Il y a comme actualité.cd, Zoomeco ou même Radio Capi, .net, qui est tenu par des journalistes soumis au devoir de déontologie. Mais maintenant, vous avez aujourd'hui les égo-médias qui sont devenus des mass médias. Ça veut dire que vous avez aujourd'hui une personne qui, dans son compte TikTok ou dans son compte Facebook, a à peu près 100 000 followers. Cette personne-là devient à elle seule un média public. Et donc, ailleurs à l'étranger, on a soumis aux mêmes conditions de déontologie de telles personnes. Donc, ça signifie, je le dis en 30 secondes, ça signifie que selon l'échelle de diffusion d'un particulier qui n'est pas journaliste, on doit pouvoir astreindre cette personne à des règles de déontologie et à des obligations. Vous vous souvenez que Facebook avait déconnecté deux personnes.
Professeur, l'état imparti à cette tranche est largement consommé, très très intéressant. Donc la matière a l'air d'inachevée. On tâchera de vous rappeler hein, pour en parler sur un autre rendez-vous. Oui. Merci d'avoir été avec nous, professeur Kodjo Ndoukouma. Vous êtes spécialiste en droit numérique et avec vous, on a fait le point sur comment éviter de se faire pirater dans les réseaux sociaux. À la prochaine occasion, excellente journée. Au revoir.
Au revoir, merci.
Dans la deuxième partie de notre magazine, hein, nous allons parler de comment gérer au fait les catastrophes naturelles qui sont des érosions, des éboulements qui sont souvent enregistrés à travers les pays et qui laissent des victimes puis des dégâts matériels importants.
Come on.